Chapitre 2. L'appareil à lire dans le cerveau. Le lendemain, le juge d'instruction, un peu abattu par une nuit d'insomnie, incapable de s'intéresser à son courrier qu'il dépouillait machinalement, regardait fréquemment sa petite pendule de bureau. À 9h45, son secrétaire vint lui annoncer que Charfland était là. L'inculpé n'avait rien dit lorsque ce secrétaire, qui s'était dérangé en personne, lui avait signifié que le juge le faisait appeler. Il n'avait pas parlé de son défenseur. À 10h, l'huissier, suivant les ordres reçus, ouvrit la porte pour introduire sans l'annoncer Nun Legos, qui, chargé de 2 grosses valises, paraissait encore plus courbé que la veille. « Monsieur le juge, il me faut quelques minutes pour me préparer. » Puis, avec une activité remarquable pour un homme paraissant si usé, il se mit à l'ouvrage, accompagnant ses gestes de diverses explications brèves. Il débarrassa la moitié du bureau du juge. « Pour mettre mes appareils. » Il sortit de ses valises des ustensiles bizarres, les posa sur la table et les assembla soigneusement. Il disposa un fauteuil, le dos contre cette table. Pour Charfland. Un autre fauteuil, placé de l'autre côté de la table. Pour moi. Il raccorda son appareil à une prise de courant. Pour la lecture. À une autre prise de courant, il raccorda un autre appareil. Pour imposer l'immobilité au besoin. Puis, disposant un nouveau fauteuil. Pour vous, monsieur le juge. Ainsi, vous pourrez regarder l'inculpé et il vous verra. Si j'estime nécessaire que vous lui adressiez des questions, je lèverai simplement la main. Vous poserez les questions qui, d'après vous, devront rappeler le mieux à Charfland les péripéties du drame, si drame il y a eu. Ces demandes se succéderont dans l'ordre chronologique des faits mêmes que vous soupçonnez. Si je ne lève pas la main, n'interrogez pas, ne dites rien. Nun Legos plaça sur la table, près du siège qu'il s'était réservé, une grande feuille de papier, tendue par un cadre lourd, muni de 2 règles transversales, et posa dessus une sorte de stylet. Jetant un dernier coup d'œil sur l'ensemble, il dit à M. de Landré « Je suis prêt ». Au moment où le juge allait sonner, il ajouta « Surtout, pas de témoin ».« Introduisez l'inculpé », ordonna le juge à l'huissier. Charfland faisait bientôt son entrée, encadré par 2 gardes municipaux. Ces derniers congédiés d'un signe, le juge prit la parole. « Charfland, mon instruction va bientôt être close, mais avant de signer l'ordre qui vous renverra devant la chambre des mises en accusation ou à la liberté, j'ai fait appel à un savant phrénologiste, ici présent, qui se fait fort, par l'examen d'un crâne, d'indiquer si le sujet a une tendance ou non au crime. Avez-vous une objection à présenter ?» À cette question, l'interpellé regarda le juge, puis Nun Legos, puis les appareils bizarres qui se trouvaient là. Après quelques instants de réflexion, les prévisions de M. de Landré se réalisèrent, et Charfland répondit tranquillement. « Aucune. »« Alors, opérons, » déclara Nun Legos, prenant la parole et indiquant à l'inculpé le siège préparé à son intention. « Veuillez prendre place ici. Bien, je vais vous placer sur la tête cet appareil. Oh, son poids n'est pas en rapport avec son volume. Vous pourrez le supporter aisément. » Ce disant, Nun Legos coiffait le crâne de Charfland d'une sorte de caisse. Cette caisse, presque cubique, présentait une excavation sur 2 de ses faces, de sorte que le visage du patient, une fois coiffé, restait apparent à partir des sourcils. Les côtés de la figure étaient recouverts, mais 2 ouvertures correspondaient aux oreilles. Tout le reste de la tête était enveloppé. Une courroie, passant sous le menton, assujettissait la boîte. 2 espèces de béquilles, réglables en hauteur, permettaient de reporter la presque totalité du poids de l'appareil sur les épaules du patient. Ainsi, la tête n'était soumise à aucune pression gênante. « Détendez vos muscles. Vous ne sentez rien d'insupportable ? Bien, je vais vous examiner. Ce sera peut-être un peu long. Si l'appareil vous fatigue, dites-le. Nous suspendrons un moment les opérations. » Monsieur de Landré avait déjà pris place sur son fauteuil. Nun Legos tourna un commutateur placé sur la ligne de prise de courant. Puis, se postant en face de l'autre appareil, contre une visière, analogue à celle d'un stéréoscope, visière qu'il incrusta en quelque sorte sur son front, il se mit à manier, de la main gauche, une série de manettes disposées sur un petit tableau incliné, pendant que sa main droite saisissait le stylet et prenait appui sur les règles de métal placées sur le cadre maintenant la feuille de papier. Pendant quelques minutes, aucun mouvement, pour ainsi dire, ne fut fait par les trois acteurs de cette scène mystérieuse. Le juge regardait alternativement Nunlegos et Scharfland. Il se demandait avec anxiété si ce petit vieillard était réellement capable de lire l'indéchiffrable. L'inculpé, d'abord sur le qui-vive, parut vite se résigner à sa situation bizarre et, s'accoudant sans façon sur les bras du fauteuil, sembla s'absorber en des réflexions profondes. Nunlegos, le cou tendu vers son appareil, restait immobile, sa main gauche manœuvrant parfois quelques manettes, puis, tout à coup, sa main droite s'agitant, faisait tracer au stylet de petits signes bizarres et rapprochés, dans l'intervalle de papier blanc que laissaient visibles les deux règles de métal. Quand sa main atteignait l'extrémité de la feuille, un déclic déplaçait les deux règles de quelques millimètres, et il continuait à écrire les signes bizarres, en allant cette fois de droite à gauche. À l'extrémité de cette nouvelle ligne, un déclic analogue imprimait un nouveau déplacement aux règles, et sa main, docile, continuait à écrire, mais alors, dans le sens habituel, de gauche à droite. Cette séance singulière se prolongea pendant près d'une heure. Oui, pendant près d'une heure, M. de Landré, en proie à une exaltation cérébrale que rien ne décelait, promena ses regards de l'examinateur au patient, se demandant si la science nouvelle, dont se prévalait le soi-disant savant, établissait bien un courant de force inconnu entre les deux hommes, courant si extraordinaire que l'un lisait ce que l'autre pensait. Oui, pendant près d'une heure, Scharfland, résigné à ce qu'il ne considérait que comme une formalité ultime, supporta avec patience le casque épais, sans une seule plainte, sans songer même à demander quelque repos. Oui, pendant près d'une heure, le front de Nunlegos resta rivé à la visière de son appareil. Sa main gauche ne manœuvrait que rarement les manettes à sa disposition, mais en revanche, sa main droite continuait sans interruption, alternativement dans un sens et dans l'autre, à tracer des sortes d'hiéroglyphes sur la grande feuille blanche. Seul le déclic des règles d'acier, se déplaçant sur le cadre métallique, troublait le silence que les trois hommes observaient religieusement. Oui, cela dura près d'une heure. Enfin, la main droite de Nunlegos s'arrêta. Sa face, présentant des yeux exorbités, quitta son poste d'observation. Il rejeta son buste en arrière, reposa sa tête lassée sur le dossier de son siège, demeura quelques instants, les paupières baissées, comme pour ménager la transition entre le monde immatériel qu'il venait de parcourir et le monde réel. Puis il se leva péniblement et murmura « J'ai fini ». Il coupa alors le courant et débarrassa l'inculpé de l'appareil qu'il supportait avec patience. Scharfland, la tête ruisselante de sueur, s'épongea. Il ne put s'empêcher de dire « J'ai soif ». « Moi aussi », ajouta inconsciemment Nunlegos. À ces mots, le juge, impressionné à l'excès, plus par ce qu'il attendait que par ce qu'il avait vu, sans se rendre compte de l'étrangeté de sa décision, sonna et donna l'ordre de servir du porto avec trois verres. L'huissier, un peu surpris, s'exécuta et remplit les trois verres qu'il avait apportés. Si ce brave homme d'huissier n'avait pas été lié par le secret professionnel, qu'il considérait comme l'un des plus importants devoirs de sa fonction, même pour les choses ridiculement insignifiantes, il n'aurait certes pas pu cacher au palais sa conviction. Pour lui, Scharfland allait être immédiatement remis en liberté, puisque monsieur le juge d'instruction buvait en sa compagnie. Les trois hommes, toujours silencieux, vidèrent rapidement leurs verres. Leurs réflexions, d'ordre bien différent, auraient pu les absorber longtemps encore. Mais Scharfland, d'un air un peu goguenard, interpellant Nunlegos, lui dit « Eh bien, monsieur le savant, quelles sont vos conclusions ?»« Je dois maintenant coordonner mes observations. Je remettrai le résultat à monsieur le juge. » En disant ces paroles, il regardait ce dernier d'un air qui signifiait clairement « Il faut maintenant que nous demeurions seuls, tous les deux. » Le juge sonna. Les gardes municipaux entrèrent et Charfland reprit le chemin de sa prison. « Eh bien, monsieur Nunlegos, » prononça monsieur de Landré, d'une voix qui n'avait peut-être pas toute la fermeté qu'il aurait désirée. « Monsieur le juge, » répondit Nunlegos, « vous trouverez là des choses qui vous intéresseront. » Et il désignait la grande feuille de papier blanc, maintenant recouverte d'une multitude de signes plus étranges les uns que les autres. Puis, sans attendre une autre question, « Il faut cependant que je vous traduise mon langage secret. Mieux vaut en finir tout de suite. Donnez-moi du papier et une plume. J'en ai pour quelque temps. » Pendant près de 3 heures, Nunlegos couvrit d'une écriture rapide de nombreuses feuilles. Quand il eut terminé, il commença à démonter ses appareils, lorsque M. de Landré l'interrompit. « Ne m'avez-vous pas promis de me donner une preuve indiscutable, pour moi, de votre science ?»« Ah, c'est vrai, j'oubliais. Asseyez-vous ici. Je vous coiffe de la caisse. Comme je suis fatigué de cette longue séance, j'espère que 5 minutes vous suffiront. D'ailleurs, pour simplifier, je traduirai, au fur et à mesure à haute voix, ce que je lirai dans votre cerveau. Je vous préviens que je ne sais pas lire les noms propres. » Quelques instants plus tard, Nunlegos, le front de nouveau contre son appareil, annonçait « Ma femme, attends, déjeuner, c'est bien, affaire 5 victimes, donc pas d'inquiétude. Je trouve très gentille ma femme, 20 ans de ménage, toujours jeune, paraît grande sœur, nos enfants, étrange homme, devine ma pensée. Essayons penser autre chose, politique, souvent opposée, intérêts généraux, pays, recommandations mauvais sujet, rebut bon, arriverai-je, poste supérieur. » Haletant, M. de Landré jeta un cri, « Assez !» Et, débarrassé du coffre mystérieux, « Oui, oui, je vous crois, c'est vrai, vous avez lu tout ce que j'ai pensé. Qui êtes-vous donc pour disposer d'un pouvoir que l'humanité n'avait jamais osé entrevoir? Ne bravez-vous pas Dieu ?» Tout en démontant ses appareils et en les rangeant avec soin dans ses valises, le savant répondit « Je suis le simple Nunlegos, inconnu comme vous le savez. Mon labeur révolutionnera un jour le monde, car il imposera la sincérité. Mais je suis venu ici pour autre chose. Voici la pensée de Charfland. Vous y trouverez une foule d'indications curieuses. Maintenant, rappelez-vous nos conventions. Je considère votre parole d'honneur comme engagée. Vous ne révélerez à personne ni notre première conversation, ni ce qui vient de se passer. » Le juge d'instruction renouvela sa promesse et reconduisit avec déférence le petit vieillard qui partait, tout courbé, sous le poids de ses diaboliques appareils. Monsieur de Landré se précipita sur le manuscrit que venait de lui remettre Nunlegos et se plongea dans sa lecture. Sa physionomie reflétait ses impressions intimes. Il exultait. Puis il se calma, réfléchit, recommença sa lecture et prit des notes. Après avoir rangé le manuscrit et ses feuilles, il téléphona à la sûreté et sortit vers 8 heures du soir. Il y avait 11 heures qu'il était dans son cabinet. Il n'avait absorbé, pour tout aliment, que le verre de Porto pris en compagnie de Nunlegos et de Charfland. Mais son estomac ne réclamait rien. Il rentra chez lui, surtout pour rassurer les siens, dîna rapidement, revint à son bureau et rédigea une série d'ordres de mission. Vers 11 heures, le chef de la sûreté, prévenu, se présenta. Les deux hommes délibérèrent pendant 2 heures et sortirent ensemble. En se séparant, le juge répéta « C'est bien convenu, n'est-ce pas? Les diverses missions commenceront à opérer à la première heure. Chacune ignorera complètement les autres. Je compte sur vous à 10 heures pour que nous exécutions ensemble la plus importante, sur laquelle je ne vous ai encore donné aucun renseignement. Je crois à un beau succès. À demain. » La matinée suivante, M. de Landré s'était mis rapidement au travail dans son cabinet. Vers 9 heures, la sonnerie du téléphone retentit. « Allô, monsieur le juge d'instruction de Landré ? C'est moi. Je suis du secrétariat du parquet et suis chargée de vous transmettre l'ordre de vous présenter tout de suite chez monsieur le procureur général. C'est bien, j'y vais. La conversation terminée, monsieur de Londré pensa amèrement qu'au lieu d'user de la formule habituelle « monsieur X est prié de passer chez », on venait de lui donner un ordre. Le procureur général a pris une décision, pensa-t-il. Il n'était donc que temps. Il ne se trompait pas. Introduit chez le procureur, celui-ci, au lieu de venir à lui, la main tendue, comme il en avait l'habitude, resta sur son fauteuil. « Monsieur, lui dit-il, vous n'avez pas tenu compte des nombreuses indications qui vous ont été données au sujet de l'affaire Charflande. L'opinion publique considère ce dernier comme innocent. Le monde parlementaire s'agite. Appelé d'urgence, hier soir, chez le garde des Sceaux, j'ai été obligé de reconnaître avec lui qu'une mesure s'imposait pour arrêter un scandale dont le prestige de la justice pourrait souffrir. En conséquence, je vous avertis que je viens de signer, et il montrait une grande feuille à en-tête du parquet, votre dessaisissement de cette affaire au profit de votre collègue, M. Laumier. Ce matin même, vous lui passerez tous vos dossiers. » Un peu abasourdi par cette décision et surtout par la façon un peu brutale dont elle lui était signifiée, M. de Londré se reprit vite. N'était-il pas à la veille de confondre enfin le coupable ? Monsieur le procureur général, vous savez combien je reste toujours persuadé de la culpabilité de Charflande. Je comprends, devant le manque de preuves certaines, l'émotion de l'opinion publique. Je comprends également que cette affaire puisse profiter au jeu de l'opposition du ministère actuel. Soyez donc certain que je m'inclinerai sans discuter devant l'arrêt que vous venez de signer si... Le procureur eut un soubresaut, mais le juge, sans s'en apercevoir, continua. Si je n'étais absolument certain de démasquer d'ici peu le coupable, je vous demande un délai de quelques jours. Je le regrette, monsieur, c'est impossible. Pourtant, monsieur le procureur général, si je vous disais que je viens de connaître des faits nouveaux intéressant la cause et que ce délai que je vous demande est simplement celui qui m'est nécessaire pour procéder à leur vérification. Ce serait inutile. L'ordre signé sera exécuté. Mais si, pour vous apporter une preuve de l'importance que j'attache à ces faits nouveaux, je vous donnais ma parole qu'au cas où je me serais trompé, c'est-à-dire au cas où, très prochainement, je n'arriverais pas à prouver la culpabilité de Charflande, ce n'est pas seulement le dossier que je vous remettrais, mais aussi ma démission de juge. Par cette démission, vous seriez couvert vis-à-vis du garde des Sceaux. Alors, ce court répit, vous pouvez bien me l'accorder. Impossible, prononça sèchement le procureur général, en se levant pour laisser entendre que l'audience était terminée. Monsieur de Londré blêmit. Ainsi, au moment même où allait aboutir cette longue instruction, où il le sentait bien, il allait enfin pouvoir démontrer combien son intuition avait été exacte, il fallait, en vertu d'une décision équivalente à une véritable disgrâce, se désintéresser de ce cas où il avait mis toute son âme. Il se raidit et d'une voix contenue. « Vous savez, monsieur le procureur général, si j'ai toujours été un fidèle serviteur de la justice, depuis près de 30 ans, je lui ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence. Vous savez bien que le juge de Londré n'a jamais commis une faute, n'a jamais condamné un innocent, n'a jamais traduit que des coupables devant les tribunaux. Eh bien, au nom de ces 30 années d'honorabilité et de service dévoué, au nom de la justice que je prétends servir du plus profond de mon âme, accordez-moi, monsieur le procureur général, ce délai de grâce que... Cela va vous étonner, j'implore. » Le procureur, un peu ému, sachant combien ce qu'il entendait était exact, gardait le silence. 10 heures sonnèrent. De Londré sursauta. « Monsieur le procureur général, le chef de la sûreté m'attend dans mon bureau. Je dois engager avec lui une opération de la plus haute importance pour l'affaire Charflande. De grâce, attendez mon retour dans 2 heures et je vous apporterai une preuve indiscutable. Oui, oui, au nom de nos vieilles relations personnelles. Excusez-moi, monsieur le procureur général, de les faire intervenir dans cette question de service, vous garderez par-devers vous cet ordre de dessaisissement. Oui, oui, 2 heures seulement. Si la vérité n'éclate pas, que Dieu me confonde. » Et, en proie à une véritable exaltation, M. de Londrée sortit précipitamment. Ce trouble, dans les hautes sphères, généralement sereines de la magistrature, venait à la suite de la visite d'un inconnu. Qu'était-ce donc que ce nul négoce qui en était la cause ?